de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La délégation de la République tchèque rencontre le 10e sultan Aminkubono. L'Indonésie invite la Thaïlande et la Malaisie à lutter pour le bien-être des producteurs de caoutchouc naturel. Le président oriente le développement intégré des MPME. De KRI sont envoyés au Timor-Leste pour une mission diplomatique. Et enfin, la Grande-Bretagne et l'Indonésie coopèrent dans les efforts de prévention de la corruption. Voici le journal complet. La délégation de la République tchèque a rencontré lundi le 10e gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, au bureau de Kepatihan à Yogyakarta. Ils ont discuté du projet de la coopération de construction d'une installation ferroviaire qui reliera la ville de Yogyakarta à l'aéroport international de Yogyakarta. La délégation de la République tchèque était composée du secrétaire du ministre tchèque des Affaires étrangères, Miloslav Stasek, l'ambassadeur de la République tchèque en Indonésie, Ivan Otek, et du directeur du bureau du secrétariat d'État tchèque, Arnos Kares. Après la réunion, Miloslav Stasek a déclaré: plusieurs sociétés en République tchèque sont actuellement intéressées à participer à un projet de transport qui relie la ville de Yogyakarta au nouvel aéroport de Kulon Progo. Pendant ce temps, le 10e sultan Aminkubuwono a déclaré que s'il était réalisé, le train qui reliera plus tard l'aéroport international de Yogyakarta à la ville de Yogyakarta serait un train miniature tchèque. L'Indonésie invite la Thaïlande et la Malaisie en tant que pays membres du Conseil tripartite international du caoutchouc, ITRC, à protéger les producteurs de caoutchouc et à prendre des mesures conjointes pour surmonter divers problèmes du caoutchouc naturel afin de lutter pour le bien-être des producteurs de caoutchouc naturel. C'est ce qu'a affirmé l'Indonésie qui a présidé la réunion de l'ITRC qui s'est tenue à Jakarta récemment. Le directeur des négociations pour la coopération économique Asie-Pacifique et de l'Organisation internationale du ministère du Commerce, Antonius Yuditriantoro, dans sa déclaration reçue à Jakarta, a déclaré que la réunion avait discuté de la situation du marché mondial du caoutchouc naturel et avait formulé des efforts concrets pour surmonter les problèmes des prix bas du caoutchouc naturel qui ont un impact direct sur le bien-être des producteurs de caoutchouc. Pour cela, toutes les parties liées doivent protéger les producteurs de caoutchouc avec différentes étapes prévues. Lors de cette réunion, deux accords ont été atteints, à savoir les pays membres de l'ITRC continuent à s'engager à maintenir l'approvisionnement en caoutchouc naturel par le biais du programme d'ITRC et à élargir le cadre de coopération avec d'autres pays producteurs. Le président Joko Widodo demande à son cabinet de fournir un soutien au développement des micro, petites et moyennes entreprises, ou MPME, de manière intégrée. Cela a été fait par le président dans l'ouverture de la réunion limitée sur l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises en 2020 au bureau du président à Jakarta. Selon le président, 18 ministères et institutions ont des programmes d'autonomisation des MPME qui n'ont pas été mis en synergie. En outre, le financement des micro, petites et moyennes entreprises est également dispersé et ne se concentre pas encore. Le président a souligné l'importance de la politique du guichet unique pour l'autonomisation des micro, petites et moyennes entreprises. Jokowi a indiqué que le financement des micro, petites et moyennes entreprises pourrait être facilité. Le gouvernement soutiendrait également le développement des MPME en aidant, entre autres, à accéder à des sources de financement, la gestion financière jusqu'aux questions d'emballage et de pénétration de marché ou de marque des produits. Le gouvernement indonésien a envoyé des navires de guerre tels que KRI Usman Harun 359 et KRI Sultan Iskandar Muda 367 à Dili au Timor Oriental pour participer aux activités de Indonesia Maritime Envoy 19B tout en effectuant simultanément une mission diplomatique de 4 jours dans ce pays. Le commandant de KRI Usman Harun 359, le capitaine de faisceau Himawan, a été major du commandement de la base navale 7 Kupang, a déclaré lundi que les deux navires de guerre historiques ont été envoyés pour devenir des ambassadeurs maritimes indonésiens pour les pays qui bordaient directement avec l'Indonésie et cette fois est Timor-Leste. Il a dit que sa tâche principale était de renforcer la diplomatie liée aux affaires maritimes. Il a ajouté que l'activité de l'Indonésie à Indonesia Maritime Envoy 18B visait à accroître la coopération entre l'Indonésie et le Timor-Leste qui avait devenu la 27e province d'Indonésie. Le gouvernement britannique coopère avec le gouvernement indonésien sur des initiatives de prévention de la corruption par le biais du programme mondial anticorruption d'une valeur de 45 millions livres sterling ou l'équivalent de 832 milliards rupiah. Le programme mondial sur les initiatives de prévention de la corruption a été mis en œuvre par le gouvernement britannique dans plusieurs pays, y compris l'Indonésie, dans le but de renforcer la capacité des autorités à lutter contre la corruption, à promouvoir l'intégrité des entreprises, à accroître la transparence de la propriété des avantages et à numériser l'approvisionnement public. Cela est indiqué dans une déclaration écrite de l'ambassade britannique à Jakarta, reçue lundi. L'ambassadeur adjoint britannique en Indonésie, Rob Fenn, a déclaré que les pratiques de corruption menacent l'intégrité du marché, la faiblissent la concurrence loyale, dissuadent les investissements étrangers, nuisent à la confiance du public et à l'état de droit. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serge Milanten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, la Journée internationale des droits de l'homme. Depuis 1950, le monde commémore la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre. En Indonésie, la Commission nationale des droits de l'homme, ou Komnas HAM, a célébré cette journée, lundi le 9 décembre, assistée par le vice-président Ma'ruf Amin. Dans son discours, Ma'ruf Amin a souligné l'engagement du gouvernement à résoudre le problème des violations des droits de l'homme au passé. Le vice-président a souligné que le gouvernement continue de rechercher les meilleures solutions, entre autres à travers des études menées par diverses agences compétentes. Pour soutenir l'achèvement, Ma'ruf Amin espère également le soutien de la Commission nationale des droits de l'homme de mener l'évaluation, la recherche et la médiation. Il a également déclaré que le gouvernement était déterminé à faire un véritable effort pour faire respecter les droits de l'homme dans les domaines des droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels qu'il n'était pas encore pleinement atteint. Il a évalué la nécessité d'un processus durable pour atteindre de meilleures normes ou qualités en matière de droits de l'homme. Pendant ce temps, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmad Taufan Damanik, a déclaré que les violations flagrantes des droits de l'homme commises au passé restaient les devoirs du gouvernement de Joko Widodo Ma'ruf Amin. En outre, il existe encore d'autres problèmes liés aux conflits agraires et aux ressources naturelles. Ce qui est plus important, il y a des problèmes d'intolérance, de discrimination et d'extrémisme avec la violence qui peuvent perturber le développement économique et politique. La Commission nationale des droits de l'homme a enregistré 11 cas de violations extraordinaires des droits de l'homme qui ont été traités, tels que la tragédie de 1965, le cas de Talansari, l'éthique mystérieux ou Petrus de Jumat de mai 1998, des militants disparus et le maître de militants des droits de l'homme, Mounir. Ces cas n'ont pas été résolus jusqu'à présent. Damanik soutient le plan du ministre de coordination des droits politiques et des droits de l'homme, Mahfoud MD, qui établira une commission de vérité et de réconciliation. Ainsi, les cas de violation des droits de l'homme peuvent être résolus sans délai. Pour Damanik, c'est un pas en avant du gouvernement. Cependant, Damanik estime que la commission de vérité et réconciliation devrait commencer par révéler la vérité en première. Que réconciliera-t-on si la vérité n'est pas révélée? Le pas en avant d'Indonésie dans la réalisation des droits de l'homme est également reconnu par le monde. L'Indonésie a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2020-2022. Cela signifie que le monde confie la défense internationale des droits de l'homme à l'Indonésie en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Par conséquent, le gouvernement indonésien doit maintenir la confiance du monde en montrant sa gravité dans la résolution des cas de violation flagrante des droits de l'homme chez lui. Cela est conforme à ce qui est prescrit dans la Constitution de 1945 et les droits internationaux de la personne. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir, chers auditeurs. Vous écoutez maintenant l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 décembre 1901, la première attribution du prix Nobel à Stockholm, en Suède. Le prix Nobel est décerné chaque année à ceux qui ont fait des recherches exceptionnelles, découvrir de nouvelles techniques ou de l'équipement ou a fait une contribution exceptionnelle à la communauté. Le prix Nobel a été décerné la première fois sur la base de la volonté d'Alfred Nobel, industriel suédois et inventeur de la dynamite. Il a signé ce mandat au Club de la Suède et la Norvège à Paris le 27 novembre 1895. Cela a été fait parce qu'il était surpris de voir son invention qui est effectivement utilisé à des buts destructeurs et il veut que le prix Nobel soit attribué à ce qui a rendu des grands services à l'humanité. Le prix Nobel est décerné chaque année le 10 décembre, telle que la date de la mort d'Alfred Nobel. Chers auditeurs, maintenant le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle sur les droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot, Paris. Cette déclaration se compose de 30 chapitres concernant la garantie des droits de l'homme pour tous les peuples, entre autres que toutes les personnes ont les droits. À la vie, la liberté et l'agence de sécurité, la reconnaissance de sa personnalité, le territoire d'un État, la nationalité et l'obtention de droits de propriété sur les objets. Et maintenant, le 10 décembre 1957, la fondation de la Compagnie nationale du pétrole appartenant à l'État ou pour Mina. En octobre 1957, le chef d'état-major de l'armée indonésienne à cette époque, le général Abdul Haris Nasution, a nommé le colonel Ibnu Sutowo pour fonder une compagnie du pétrole ayant le statut de société anonyme. Le 10 décembre 1957, on a fondé la Compagnie nationale du pétrole SA, en abrégé PT Permina, avec le colonel Ibn Sutowo en tant que président. Basé sur la loi numéro 19 de 1960 concernant la société d'État Pertamina SA comme une société à responsabilité limitée est devenue une entreprise d'État avec le colonel Ibn Sutowo en tant que président. Sœur Jelitar, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Bye.
Chers auditeurs, la sanction entre les rapports chantée par Junior arrive. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc Mon Indonésie.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie. Le thème d'aujourd'hui est consultation bilatérale entre l'Indonésie et l'Afrique du Sud, encourageant le renforcement de la coopération concrète. L'Indonésie et l'Afrique du Sud ont tenu des consultations bilatérales en marge de la mise en œuvre du Forum de Bali sur la démocratie le 6 décembre 2019. La directrice générale du ministère des Affaires étrangères de l'Asie-Pacifique et de l'Afrique, Desra Percaya, qui dirigeait la délégation indonésienne, a déclaré que les relations bilatérales entre la République d'Indonésie et l'Afrique du Sud étaient entrées dans une nouvelle dynamique avec la réalisation de la première réunion des consultations bilatérales. Comme cité kemlu.go.id, la consultation bilatérale fait suite au protocole d'accord sur la création de la commission mixte de coopération bilatérale qui avait été précédemment signée par les deux pays. Président de la délégation sud-africaine, directeur général adjoint du département des relations internationales pour l'Asie et le Moyen-Orient et coopération, le professeur Anil Suklal a déclaré que les relations entre les deux pays qui existent depuis plus de deux décennies, depuis 1994, doivent être soutenues par une coopération plus concrète dans le secteur économique. La réunion a discuté des progrès bilatéraux de l'Indonésie et de l'Afrique du Sud, y compris la mise en œuvre du plan d'action de coopération bilatérale 2017-2021, signé en 2017. Au cours de la réunion, la partie sud-africaine a déclaré qu'elle soutiendrait l'Indonésie dans la formation d'un accord commercial préférentiel APT avec le Sud. L'Union douanière africaine SACU est dans ce cas ouvert à l'exploration de la possibilité d'établir un ACPR bilatéralement avec l'Indonésie si les développements avec l'Union douanière d'Afrique australe rencontrent des obstacles, y compris en identifiant les produits qui sont mutuellement bénéfiques pour les deux pays. En outre, les deux pays sont également convenus d'augmenter le volume des échanges et des investissements, principalement dans les secteurs des infrastructures, de la fabrication et de l'agriculture. L'augmentation des investissements ne visait pas seulement les investissements entrants sud-africains en Indonésie, mais également l'augmentation des investissements sortant de l'Indonésie en Afrique du Sud. A également discuté des questions régionales et multilatérales d'intérêt mutuel des deux pays et les deux parties ont convenu d'intensifier la collaboration entre les deux pays dans le cadre des Nations Unies, du G20 et de la Indian Ocean RIM Association IORA. À cette occasion, la délégation sud-africaine a également exprimé sa gratitude pour le leadership de l'Indonésie sur le Bali Democracy Forum, BDF, en tant que plateforme positive et inspirante pour la promotion de la démocratie dans le monde. Bon, chers auditeurs, c'est tout mon Indonésie d'aujourd'hui.
Yang membawaku menakjubkan bahagianya ku merasa kamu ada.
Saya cerita kita ada James Sangsong antitulai kamu adalah Shangte Paral Group Musical Kotak Musa Tuzur Aviknu Voice of Indonesia di Indonesia Puklemong untuk seluruh Afrika yang ada tentang tua Bengsen Kilo Arts asal situ web www.puangwinspuang.id. Saya cerita metu nuzalung buka Shangte le magazin kultural seluruh turisme elah saja selokal di Pulau Indonesia.
Bonsoir chers auditeurs, on se rencontre encore dans l'émission Le Magazine Culturel avec moi Oudry. Ce soir, je vais vous présenter Nasi Dagang, cuisine typique de Tanjung Pinang, province des îles Riau. Alors restez bien avec nous à RRI World Service Voice of Indonesia. Chers auditeurs, visitant Tanjung Pinang, la capitale de la province des îles Riau, tente de profiter d'une variété de plats culinaires typiques de Tanjung Pinang. L'un d'eux est le nasi dagang. Ce menu du petit déjeuner est composé d'un mélange de riz et de riz gluant, cuit avec du lait de coco. Les épices du nasi dagang sont les échalotes, les graines de calabat et les feuilles de citronnelle. Cette cuisine est généralement servie avec du thon, du bilis, du poisson tamban, des œufs, de poule et du sambal, puis enveloppé dans des feuilles de bananier. Cette apparence culinaire est si petite et unique, car les feuilles de bananier sont formées de la taille de la main d'un adulte qui est attaché avec un petit bâton. Chers auditeurs, ce culinaire s'appelle le nasi dagang parce que dans les temps anciens, il était apporté comme provision par les villageois pour faire du commerce. En voyage, les commerçants apportent du riz contenant du curry, des poissons et des cornichons enveloppés dans des feuilles de bananier. Au fil du temps, ce plat d'accompagnement culinaire est de plus en plus diversifié, non seulement en tant que provision pour le commerce, nasi dagang est également devenu un menu obligatoire lorsque des événements traditionnels ont lieu à Tanjung Pinang. Maintenant, le nasi dagang est également vendu comme menu de petit déjeuner dans les stands de nourriture de la ville de Tanjung Pinang. Serge Littard, lorsque vous ouvrez et mangez l'arôme distinctif d'une feuille de bananier, cela se sent. Cette cuisine est si délicieuse, surtout si elle est appréciée avec un verre de thé, de tournesol ou de thé glacé. Habituellement, les gens qui goûtent ce culinaire, il ne suffit pas de simplement profiter d'un pack, car il est de petite taille qui ne peut être utilisé que 100 fois en pot de vin à l'aide d'une cuillère. Pour déguster le nasi dagang, il n'est pas difficile de le trouver à Tanjung Pinang. Il existe de nombreux stands de vente de produits culinaires. Le prix est assez bon marché, autour de 5000 rupiahs par paquet. Serge Ritter, c'était le magazine culturel sur nasi dagang, cuisine typique de Tanjung Pinang, province des îles Riau. On se rencontre demain avec les sujets différents. Merci beaucoup et au revoir. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa.
cinta.
Kita diam jatuh cinta.
Seperti apa yang ku damba.
Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Saya kembali talk setelah Samsung de Kahitna ang titule Andai Dia Tahu. Buzat Zurabeknu, Voice of Indonesia di Indonesia Puk Lemong. Purarbik Sibang tak ubah dong ke Aprang de Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien. Un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Et le sujet d'aujourd'hui est Sila Kanminum, ou en langue française, buvez s'il vous plaît. Chers auditeurs, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation ayant pour titre « Silahkan minum » ou en langue française « Buvez s'il vous plaît ». La situation est « Joko rencontre Tony et introduit sa femme, Dinda, à Tony. Joko invite Tony à boire du café qui a été disponible. »
« Silahkan minum kopinya. » »«
Oh, terima kasih. Enak. »
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire reliant au thème d'aujourd'hui, à savoir si la canmino, moi en langue française, buvez, s'il vous plaît. Je vais prononcer deux fois comme d'habitude et vous pouvez répéter après moi. Kopi. Kopi signifie café. Silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. En français, veuillez boire le café. Enak. Enak. En français, c'est bon. Itu kopi luwak. En français, c'est du café luwak. Kamu tidak minum. En français, tu ne bois pas. C'est sedang puasa. En français, je jeûne. Chers auditeurs, le mot pour laisser les autres en langue indonésienne est silahkan. Silahkan. En langue française, s'il vous plaît. Les exemples d'utilisation dans des situations de réception d'invités. Silahkan minum kopinya. Silahkan minum kopinya. En langue française, s'il vous plaît, buvez du café. Silahkan masuk. Silahkan masuk. En langue française, entrez s'il vous plaît. Silahkan duduk. Silahkan duduk. En langue française, asseyez-vous s'il vous plaît. Quand vous êtes invité à faire quelque chose mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le faire, vous pouvez le refuser poliment. Par exemple, silahkan masuk. Silahkan masuk. Ou bien entrez s'il vous plaît. Et vous répondez maaf di sini saja. Maaf di sini saja. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar. En langue française, non, ça va, je reste ici. C'est pour un moment. Serge Ritard, exemple dans une autre situation. Silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya. En langue française, s'il vous plaît, goûtez ce gâteau. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. En langue française, désolé, je jeûne. Serge Littard, avant de terminer, apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, pour plus de détails et plus clair, écoutons encore l'exemple de la conversation. Bonne écoute.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.
Dirimu aku pegang. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Hasrat Cinta, chantée par Lala Carmela. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans le magazine musical. Aujourd'hui, nous présentons une chanson malaise dont le titre est Hasrat Malam, qui signifie le désir de la nuit, chanté par Toto Sham. La chanson intitulée Hasrat Malam, chantée par Toto Sham, raconte de l'anxiété et la tristesse de quelqu'un laissé par son amant. Il est toujours la lettre d'amour envoyée par l'amant pour divertir le cœur. Comme les paroles tristes et déprimées, cette chanson est autant polante avec une musique douce. Bon, chers auditeurs, voilà la chanson intitulée Hasrat Malam, ou en français Le désir de la nuit, de Toto Sham. Bonne écoute!
Berita terdekat ini.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.